Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
Vendredi 13 juin, le journal. Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Des frappes israéliennes sur l'Iran visaient des sites nucléaires, des usines de missiles balistiques et des commandements militaires iraniens.
Et on en reparle à 6h20 justement avec notre invité qui vient décrypter ces frappes israéliennes contre l'Iran. Nous serons avec Frédéric Ancel, spécialiste de l'Iran, docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po Paris.
Le reste de l'actualité, c'est bien sûr l'accident d'avion en Inde. Un seul survivant, le Boeing Dreamliner 787, fleuron du constructeur américain dans la tourmente. Des dotations de l'État en baisse, les petites communes n'ont plus les moyens d'investir. François Bayrou attendu de pied ferme à Saint-Rémy-de-Provence pour clôturer les assises des petites villes de France. Incroyable, des clémentines, des citrons, des oranges qui poussent en Bretagne. Le réchauffement de la planète est déjà une réalité dans le Morbihan, c'est le grand format du journal.
France Inter.
L'actualité de la nuit, Laurence, ce sont ces fortes explosions en Iran.
Des frappes israéliennes contre l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz et également, selon l'Iran, sur des immeubles résidentiels de Téhéran, la capitale, des frappes qui auraient fait plusieurs morts civiles, dont des enfants. Par ailleurs, selon Téhéran, le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a été tué dans cette attaque, ainsi qu'un scientifique nucléaire. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. L'opération militaire contre l'Iran durera autant de jours que nécessaire, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Oui, Israël est depuis cette nuit en guerre ouverte contre l'Iran. Il n'y a clairement plus d'ambiguïté stratégique. Le Premier ministre s'est exprimé au milieu de la nuit. Ton martial, le regard face à la caméra. Il a clairement déclaré la guerre à Téhéran et il l'a précisé, vous l'avez dit, que cette campagne de frappe durerait aussi longtemps que nécessaire. Les 5 vagues de missiles sont massives, selon la radio de l'armée israélienne. 3 types de cibles. D'abord, le programme nucléaire iranien avec des frappes sur l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme ce matin suivre de très près la situation. Deuxième cible, des usines de missiles balistiques. Ce sont des missiles à longue portée qui peuvent toucher le territoire israélien en 12 minutes. Selon les renseignements américains, l'Iran en avait, avant les frappes de cette nuit, 2000 à disposition. Et enfin, troisième cible, au moins 2 scientifiques de haut niveau et surtout le haut commandement. Les médias israélien confirme la mort du plus important responsable militaire iranien. Vous l'avez évoqué, c'est le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami. L'Iran promet une réponse forte, une punition sévère selon le guide suprême Ali Khamenei. L'État hébreu se prépare au pire. Le pays est depuis le milieu de la nuit en état d'urgence.
Quant aux États-Unis, Washington affirme ne pas être impliqué et avertit l'Iran de ne pas cibler les intérêts américains. Conséquence de cette frappe israélienne, envolée du cours du pétrole de 10%. Le moment est décisif, Emmanuel Macron fait monter les enjeux mais entretient le suspense. Reconnaîtra-t-il la semaine prochaine un État palestinien ? À ce jour, le chef de l'État reste flou sur ses intentions. Il va conclure cet après-midi la conférence de la société civile pour la solution à deux États organisée par le Forum de Paris sur la paix. Et dans ce contexte, le retour en France mouvementé de Rima Hassan, expulsée d'Israël après les raisonnements de son bateau qui tentait de rallier la bande de Gaza en début de semaine, l'eurodéputée LFI a dû se réfugier dans les toilettes de l'avion Jérusalem-Paris suite à un mouvement de voyageurs hostiles. Elle promet, je cite, qu'il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser le blocus à Gaza. Aux États-Unis, un nouveau revers sur le front judiciaire pour le président américain. Illégal, un juge a temporairement interdit le déploiement de la garde nationale pour faire face aux manifestations à Los Angeles. L'administration américaine a fait appel de cette décision. Un seul survivant sur les 242 passagers et membres d'équipage du Boeing Dreamliner d'Air India. L'appareil s'est écrasé hier à Ahmedabad, dans le nord-ouest du pays, juste après avoir décollé pour l'Angleterre. Le dernier bilan fait état d'au moins 265 morts, dont une vingtaine au sol, puisque le Boeing a percuté des bâtiments avant de s'embraser. Ce drame braque de nouveau les projecteurs sur le fleuron du constructeur américain. Un appareil jamais impliqué jusqu'ici dans un accident mortel, mais le Dreamliner était particulièrement surveillé depuis des années à Washington. Sébastien Paour.
Le premier Dreamliner a été livré en 2011 à la plus grande compagnie aérienne japonaise, All Nippon Airways. Plus de 1100 sont en service aujourd'hui. Air India en exploite environ 35. Celui qui s'est écrasé hier avait été construit en 2013 et livrée début 2014. Des livraisons suspendues pendant plus d'un an jusqu'à l'été 2022, le temps de répondre à des problèmes de qualité sans impact immédiat sur la sécurité d'après Boeing, des interstices pas plus épais qu'une feuille de papier à combler dans le fuselage des avions et des pièces en matériaux inadaptés à remplacer par d'autres en titane. Le régulateur américain de l'aviation avait aussi enquêté l'an dernier sur les allégations d'un lanceur d'alerte, un ingénieur du constructeur qui mettait en cause des parties du fuselage ou de la carlingue mal assemblée. Les nombreux tests réalisés n'avaient rien révélé de particulier. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Après un an de détention en métropole, les 5 militants kanaks de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, ont été libérés. Ils étaient soupçonnés par la justice d'être derrière les émeutes de l'an dernier en Nouvelle-Calédonie autour de la réforme du corps électoral. Parmi eux, le leader indépendantiste kanak Christian Tin. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Les sages valident l'essentiel de la loi narcotrafic. Seule une poignée d'articles a été censurée par le Conseil constitutionnel, dont le retour obligatoire à la visioconférence pour les interrogatoires et les audiences pendant l'instruction. Le Premier ministre François Bayrou attendu de pied ferme cet après-midi à Saint-Rémy-de-Provence pour clôturer les assises des petites villes de France. Car depuis hier, les maires de ces communes de 2500 à 25 000 habitants sont réunis pour parler transition écologique, crise du logement, dynamisme des centres-villes et évoquer leurs difficultés financières alors que les dotations de l'État sont en baisse. Les petites villes où vivent 40% de la population doivent se serrer la ceinture. Elles sont contraintes de renoncer à leur projet d'aménagement, impuissantes face à la disparition des services publics. Mathilde Vinceneux à Saint-Rémy-de-Provence.
Les petites villes ne sont pas responsables de la dette de l'État, clame Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France et maire de Barentin, 12 000 habitants en Seine-Maritime.
Mais pas pour ne pas participer à l'effort, mais pas tout l'effort. Moi, j'ai renoncé à réhabiliter une crèche. J'ai des maires qui ont fermé des médiathèques. J'ai des maires qui, pendant plusieurs mois, ont fermé des piscines. On est à l'os aujourd'hui. On ne peut pas faire plus.
Les petites villes n'ont plus les moyens d'investir, explique l'élu. Au Vigan, commune de 4000 habitants dans les Cévennes, la maire Sylvie Arnal ne sait pas si elle arrivera à rénover l'école pour faire face au changement climatique.
On sait d'ores et déjà qu'on ne sera pas subventionné à hauteur de 80%, comme jusqu'à présent on pouvait être subventionné.
Sans compter ces services publics qui disparaissent, comme la maternité de Saint-Claude, 9000 habitants dans le Jura, fermée en 2018, le maire Jean-Louis Millet.
Depuis la fermeture de la maternité, on a une quinzaine de mamans qui ont accouché au bord de la route. Il y a un papa qui a récupéré le bébé comme une savonnette sur un talus de route départementale. On revient au Moyen-Âge, quoi, c'est lamentable. La démolition du service public, elle est permanente. On n'a plus de moyens, on est privé de dotation.
On ne sait plus où trouver l'argent, souffle ce maire qui confie avoir eu du mal à réunir 6000 euros la semaine dernière pour financer un espace pour les urnes dans son cimetière.
Mathilde Vinceneux, bonne chance aux 500 000 élèves de première générale et technologique. Ils passent ce matin l'épreuve anticipée du bac français avant la philo lundi pour les terminales. Et en ces périodes d'examen, ce rapport de la commission des finances du Sénat, désormais sur le bureau de la ministre de l'Éducation nationale. Des enseignants de plus en plus irremplaçables. Titre du rapport, tout est dit. En moyenne, tout au long de sa vie d'élève, un enfant sera privé de quasiment 5% de son temps scolaire en raison du non-remplacement des enseignants absents. Cécile Bidot.
Le rapport commence par quantifier les absences des enseignants. Plus de 7 millions de demi-journées l'année dernière, rien que dans le premier degré, une hausse de 17% en 5 ans. Tout niveau confondu, un professeur est absent 9 jours par an en moyenne, pour raisons de santé mais aussi pour des formations. Un chiffre inférieur à la moyenne des fonctionnaires. Les enseignants sont également moins absents que la moyenne des salariés du privé. Selon ce rapport, le problème majeur, c'est donc le manque de remplaçants. Le nombre d'absences non remplacées a quasiment doublé en 5 ans dans le second degré, où 9 fois sur 10, les élèves se retrouvent sans prof quand l'absence est de courte durée. Le sénateur LR Olivier Paccaud, à l'origine de ce rapport, y voit une explication principale. Le nombre d'enseignants titulaires dédiés au remplacement est insuffisant. Il n'a pas évolué ces 5 dernières années. Il préconise donc de rendre la fonction plus attractive en attribuant, par exemple, à ses remplaçants un bonus dans le barème qui leur permet d'obtenir des mutations.
C'est Cécile Bideau.
Inter, 6h10, le printemps 2025 parmi les plus chauds jamais enregistrés selon Météo France.
Et notamment dans la moitié nord du pays, sec et très ensoleillé. Le climat déjà réchauffé d'un degré 7 depuis l'ère pré-industrielle pourrait atteindre plus 2 degrés d'ici à 2030.
Et en Bretagne, Laurence, le réchauffement de la planète est déjà une réalité. C'est le reportage grand format d'Inter.
Ainsi, dans le Morbihan, une ferme expérimentale de maraîchage qui appartient à la Chambre d'agriculture de Bretagne teste de nouvelles cultures et notamment des agrumes. C'est à Auray, dans le Morbihan. Reportage de Maria Melkurdi.
Sous une serre transparente, des rangées d'arbustes. C'est la toute nouvelle culture testée ici sur cette exploitation maraîchère de 6 hectares. Une sorte de défi sur le sol breton.
Il y a des clémentines, des citrons et des oranges.
Christophe Girard, technicien agricole, est allé chercher les plants d'agrumes en Corse et il les a soigneusement sélectionnés.
On a choisi des variétés plutôt précoces parce qu'on n'a pas trop de soleil chez nous.
Pas trop de soleil, mais de plus en plus ?
De plus en plus, oui.
Réchauffement climatique oblige. Ici, on tente de comprendre comment faire pousser les productions de demain dans les meilleures conditions. Maëtte Leland, ingénieur agronome et responsable de cette ferme d'expérimentation.
Le végétal, c'est long, ça demande du temps. On a le droit de prendre ce temps et de rater ces années-là, là où un producteur ne peut pas se permettre de perdre autant d'années, quoi.
On prend le risque des producteurs, quoi.
Qu'est-ce que vous faites, là ?
On déroule une bâche pour éviter les mauvaises herbes, les plantes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en culture, et aussi pour ramener de la lumière.
Donc une grande bâche en plastique blanche ?
Oui, pour gagner de la luminosité.
Ce n'est pas la première fois que des fruits et légumes, entre guillemets, exotiques poussent ici. Essai réussi avec la pastèque ou encore la patate douce, que des agriculteurs bretons peuvent désormais cultiver de façon rentable. C'est le cas de Jeannette Lepaboul, maraîchère à Plouhinec.
Il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec. Les produits changent. On s'est mis la patate douce parce que ça se vendait. La pastèque, on y viendra forcément.
Et pourquoi pas demain, les citrons, ici, de tout petits, commencent à se former.
Il y en a beaucoup. Après, il faut laisser le temps quand même là, aux plantes s'enraciner. Mais là, c'est prometteur.
Pour l'instant, ça pousse bien.
Si ça continue de bien pousser, la première récolte devrait avoir lieu en octobre prochain.
Reportage de Maria Melkurdi. Et puis en rugby, jour de barrage historique à Bayonne, l'Aviron bayonnais recevra ce soir Clermont à 21h. En jeu, une place en demi-finale du top 14 de rugby. Toute la ville derrière les ciels et bleus. L'ambiance promet d'être chaude.
C'était le journal de Laurence Thomas, Esprit Sport. Esprit Sport qui passe sa semaine au Mans à l'occasion de la 93e édition des 24 heures du Mans, édition qui démarrera samedi à 16h et aujourd'hui, en raison de la durée de l'épreuve et de la longueur du tracé, la course nécessite la présence de 1600 commissaires de course. Pour eux, l'épreuve se vit en bord de piste, derrière le rail de sécurité ou sur un camion télescopique. C'est le cas de Pascal, un commissaire rencontré par Cédric Guillou.
Là, j'attaque la 7e année. Ah, c'est tout le temps le même plaisir. Maintenant, je suis chauffeur télescopique sur le circuit en course et commissaire sur des roulages. Bah, chauffeur télescopique, c'est en cas d'une voiture qui va dans un bac à gravier. Ça peut être un accident, ça peut être un feu, ça peut être divers problèmes où on a besoin de sortir le véhicule de la piste. Moi, je suis passionné du sport automobile. Hein. Bah, Le Mans, c'est pas loin de chez moi, c'est tout simplement ça. Je suis à 70 km de chez moi. Le Mans, c'est quand même la ville qui représente mondialement le circuit.
Donc la voiture, j'ai une légère fumée. Le pilote est sorti, il est en sécurité. Ça fume, je vois pas bien ce qui se passe à la caméra, donc vous intervenez.
La peur, c'est vrai qu'on est en sécurité et on prévoit la sécurité. Après, malheureusement, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer pendant la course. Celui qui a peur, faut pas qu'il monte sur un télescopique ou arrête en commissaire. Aussi, on est bien entouré par nos chefs de piste. C'est un grand challenge pour eux parce qu'eux, ils ne doivent pas être à l'abri vis-à-vis de nous parce qu'on n'est pas à l'abri de faire une erreur. Moi, je dirais un grand merci à eux. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. Nous, on est sur la piste, on rend service, mais eux aussi nous rendent service autrement.
Vous pouvez retrouver Pascal, commissaire de course aux 24 heures du Mans et son camion télescopique sur le site de France Inter. À suivre, une première revue de presse et on dégustera un burger sur la route.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tout de très bons fruits et légumes. Tendres, savoureux et parfois agrémentés d'un petit... Ah moi, les fruits et légumes, ça me donne une forme olympique. Oui, vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Eh ouais. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché. Cumule 4 semaines au 23 mars 2025.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 euros par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 euros option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 5 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à date à mai 2025. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamo Mali, SDM, Ayam, Philippe Catherine, Solane, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francopholies de La Rochelle, un événement France Télévisions et France Inter.
6h15, le kiosque.
France Inter. Le 6-9.
Bonjour Claude Eskolovitch. À la une des journaux ce matin.
Bon, un chiffre, le chiffre 13, bah ouais, comme vendredi 13. L'Union et l'Ardennaise se demandent si ça porte bonheur. Le vendredi 13 est-il vraiment un jour de chance? Faut-il tenter sa chance ce vendredi 13? On parle bien sûr des jeux de tirage de grattage. Ah, le chiffre 13 aussi à la une de la Provence. Les 13 comme les bouches du Rhône. 13 aussi comme 13 Habitat. Exclusif, le rapport qui accable 13 Habitat, société d'ailleurs de logement social. Voilà, c'est pas très bien géré. On a le droit d'aider sa famille, pas vrai. Allez, une du Figaro magazine. Oh, quelle est belle, quelle est erratique, quelle est blonde. Madame Giorgia Meloni, première ministre de l'Italie. Les raisons d'un succès, le Figaro magazine l'adore, car elle est de droite, catholique et libérale. Libérale, ça compte. Est-ce que cela inspire le Rassemblement national, qui fait la une de l'opinion? Budget, le RN en quête de dédiabolisation. Qu'est-ce qu'être dédiabolisé? Eh bien, c'est réfléchir aux règles d'or budgétaires européennes, notamment, voilà de la sagesse. J'adore le titre de Lyon républicaine, une croix lourde à porter, mais ça parle des églises, bah oui, que les collectivités doivent entretenir. Allez, à propos d'église, une de la République du Centre, l'abbé Crespin, reconnu juste parmi les nations, c'était un vrai bonhomme celui-là, allez lire le journal. Voilà, qu'est-ce qui me reste? Ah bah tiens, un autre chiffre, on avait le 13 tout à l'heure, 13 plus 11, comme le football nous donne 24, comme les 24 heures du Mans, une du Maine libre, les pilotes et leurs petites manies, oui, ils ont des petites manies, les pilotes. Après, à côté des manies, il y a des gens qui ont des préoccupations, la une des échos est assez étonnante. Le crash d'Air India fragilise Boeing. On parle de plus de 290 morts. C'est écrit dans le journal. Mais en plus, c'est vrai, oui, Boeing ne va pas sortir grandi de ce crash.
Et quel est votre choix du jour, Claude?
Eh bien, c'est les gars de EDF. Les gars de EDF, ils avaient mauvaise réputation à Soissons. Des coureurs de jupons, disait-on de ces jeunes gens, que l'électricité publique formait dans l'Aisne à l'école de Soissons-Cuffy. Oh, je vous parle d'il y a plus de 60 ans. Alors du coup, quand Daniel, que son père avait emmené à un bal en juin 64, elle avait 21 ans, a vu un beau garçon en costume impeccable, avec qui elle a discuté toute la journée, et qui lui a demandé s'il pouvait la revoir, eh bien, elle lui a dit « J'aime pas les gars de EDF ». Mais Marcel, qui n'avait pas encore 20 ans, lui a dit qu'il n'était pas comme les autres. Ils sont donc allés au cinéma et Marcel est resté sage. On était assis l'un à côté de l'autre. Il ne m'a pas pris par le cou ou par la main. Je me disais qu'il n'était pas normal. Peut-être que ça m'a plu. Lui dit, je ne me rappelle plus du film. J'étais happé par Daniel, mais je n'ai rien tenté car j'avais de bonnes intentions. Ils nous racontent cela tous les deux dans l'Union, édition de l'Aisne, Marcel et Daniel, la veille de renouveler leurs vœux pour célébrer leurs noces de diamant, car bien sûr ils se sont mariés le 12 juin 65, un an après leur rencontre, 21 ans après la mort du papa de Marcel, un résistant breton tué par l'ennemi le 8 juin 44. Et lisant les constances de leur existence, il a travaillé toute sa vie pour EDF à Soissons, Marcel et Daniel à la blanchisserie de l'hôpital local, me revient un monde dans lequel je suis né, où tout allait devenir possible, changeant rapide, fragile, mais justement, ça ne l'était pas encore. Ils ont eu 2 enfants, ils font 3 voyages par an, ils n'ont plus le sexe, disent-ils, mais tout le reste, Marcel et Daniel. Daniel, à 20 ans, savez-vous, avait tourné, abordé par un monsieur correct, dans des films publicitaires. Un producteur l'avait repéré, il l'avait présenté à Jean-Paul Belmondo pour un vrai film qu'elle avait refusé, car elle aimait trop son Marcel. Ça dit le prix de ce gars de EDF.
Claude Eskolovitch, merci. 6h19 sur Inter. Sur la route avec Guy Vanquetil. Reportage au restaurant 2 étoiles de l'hôtel La Chèvre d'Or à Aise, c'est dans les Alpes-Maritimes. Et le chef de ce restaurant, Tom Meyer, a été le président du jury de la Coupe de France du burger, un des plats préférés des Français.
Ça va, 2 couverts de petits menus avec un canard et un artichaut végé, s'il vous plaît.
Ouais.
Voilà, on est vraiment sur un lieu de luxe vraiment discret, intime, qui plaît énormément à nos clients.
You're enjoying the place?
Yes, awesome. For sure.
It's like one of the most beautiful places in the world.
C'est le plus bel endroit que j'ai vu sur Terre, me disait la touriste américaine.
En même temps, c'est pas faux.
5 étoiles, bien entendu, 3 restaurants, un bar, dont un restaurant gastronomique 2 étoiles Michelin, supervisé par le chef exécutif Tom Meyer.
Là, on passe près des tables, il y a les clients japonais, et tout le monde fait des grands sourires au chef Tom Meyer. Dernière question, qu'est-ce qu'il va dire, si vous pensez, si je lui demande de me faire un hamburger?
Il va adorer le faire et je pense qu'il va vous surprendre.
Un gamme de patience, une fois sans tomate, s'il vous plaît.
Ici, on est dans les cuisines de la Chèvre d'Or, le restaurant 2 étoiles. Donc, on a une cuisine qui est vraiment dédiée au restaurant gastronomique. Donc, j'ai une brigade de 21 cuisiniers. On sert 35 à 40 couverts par service.
Alors, moi, j'essaie de me faufiler, mais comme c'est en plein coup de chaud, je fais attention à ne pas gêner les cuisinières. Et là, vous êtes en train de monter.
Là, c'est des petites coques croustillantes de tomates, comme une petite meringue, et les tomates qui sont rôties au four. Le tout assaisonné avec du géranium rosa pour donner des parfums de rose.
C'est des petits bijoux quoi, qui sont montés sur des écrins.
C'est travaillé à la pince, chaque pouce, chaque fleur est posé avec précision. Et puis on essaye que tout soit à sa place. Aujourd'hui, moi, ça m'intéresse beaucoup plus de faire un énorme plat magique et de créer des émotions sur une sardine. Travailler comme ça, comme un petit bijou, plutôt que de mettre un loup de mer avec du caviar et une sauce beurre blanc qui est bon mais qu'on mangera partout.
Et comment un chef, justement Tom Meyer, comment un chef 2 étoiles dans un hôtel 5 étoiles peut se retrouver président du jury de la Coupe de France du burger?
Bah justement, c'est hyper intéressant, c'est de dire qu'il ne faut pas être hypocrite. Le burger ou la pizza, c'est les plats les plus consommés par les Français. Moi j'en consomme, j'en fais pour mes enfants. Le jambon beurre a bonne réputation, mais le burger serait forcément de la malbouffe. Donc moi je suis pas forcément ok avec ça. Et souvent c'est synonyme de malbouffe parce que c'est consommé dans les grandes enseignes qui sont faites à base de produits industriels. Aujourd'hui, si on décortique un hamburger, on est sur un pain avec de la viande, avec une sauce et du fromage et des légumes. En fait, ça, en termes de plaisir, on est sur un concentré de plaisir en une bouchée. Donc c'est pour ça que c'est devenu aussi populaire.
C'était Sur la route avec Guy Vanctil, que vous retrouverez en format long ce soir à 18h dans une semaine en France avec l'ami Eric Delvaux. Laissez vos interventions, vos messages sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 37 37. Inter, 6h22.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd. Le 6-9.
Premier invité, Marion Lourd, à votre micro. Il est géopolitologue et spécialiste de l'Iran, maître de conférence à Sciences Po Paris.
Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Israël dit ce matin avoir frappé des sites nucléaires, des usines de missiles et de commandements militaires iraniens. La télé iranienne parle de plusieurs morts civiles, dont des enfants. Les espaces aériens de l'Iran, de l'Irak et d'Israël sont fermés. Est-ce qu'on peut parler de guerre d'Israël contre l'Iran, comme le dit le chef de gouvernement israélien ?
Et vice-versa, c'est-à-dire que l'on va avoir une riposte iranienne très rapidement. C'est pas très nouveau, parce qu'en réalité, les menées antinucléaires israéliennes et américaines, dans une certaine mesure d'ailleurs, ont commencé dans les années 2010, au début des années 2010. Et effectivement, ça s'est accru, à la fois en quantité et en qualité, je veux dire, en termes de puissance, de projection de la part d'Israël. Ça, c'est incontestable, ces dernières années. Mais je pense que là, on a affaire, j'aime pas beaucoup le terme, je m'en méfie souvent, mais on a affaire à un tournant, parce que c'est la première fois que Netanyahou, le Premier ministre israélien, évoque alors à la fois les risques de nouvelle Shoah, mais également qu'il évoque un passage biblique. Il le fait de manière extrêmement solennelle, en anglais, donc évidemment il s'adresse au public et à l'administration américaine. Donc je pense qu'on a affaire à quelque chose de plus important.
Il dit, Benjamin Netanyahou, que ces frappes dureront aussi longtemps que nécessaire. Et il revendique un succès, mais on sait quel était précisément son objectif ?
Alors, l'objectif, il est double. D'abord, c'est de frapper les têtes, hein, à la fois de l'organisation nucléaire iranienne et puis des ingénieurs. Alors là encore, c'est pas nouveau, mais là, en une seule frappe, il semble qu'effectivement, au moins plusieurs très hauts dignitaires aient été abattus, dont l'un des chefs d'état-major de l'armée iranienne. Si vous voulez, on est dans un pays, là je parle de la République islamique d'Iran, sous un régime qui en principe est ultra sécurisé. Donc là encore, Israël démontre, et c'est l'un des objectifs en réalité, qui est assez psychologique, qu'il peut se permettre à peu près tout dans l'espace aérien et dans les villes et dans les états-majors iraniens. Et puis Natanz, c'est l'un des plus anciens sites de fabrication, d'enrichissement d'uranium en l'occurrence, donc de fabrication potentielle d'une bombe. Et ce n'est pas anodin parce que c'est une ville située très, très près du golfe arabo-persique où tout se passe. Enfin, là, on est vraiment au cœur névralgique en quelque sorte du Moyen-Orient.
Voilà, vous avez prononcé le mot nucléaire. C'est aussi pourquoi ça arrive maintenant, c'est-à-dire que c'est une sorte de frappe préventive après la résolution de l'AIEA qui condamne Téhéran pour non-respect de ses obligations nucléaires.
Oui, vous avez raison. Mais l'AIEA à Vienne, donc à son siège, dès 2002. Considère que la République islamique d'Iran ment sur le programme nucléaire prétendument civil à l'époque. Alors oui, de 2002, c'est nouveau.
Et ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est que l'Iran est en mesure de fabriquer des armes nucléaires, en fait.
Alors c'est ça, mais le truc, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 1er janvier 2007, et je dis bien le Conseil de sécurité, donc ce ne sont pas uniquement les Britanniques, les Français, les Américains, mais les Russes et les Chinois, à l'époque, considèrent que le président de l'époque, donc Ahmadinejad, président iranien, a menti et qu'en réalité, l'Iran va à la bombe. On est en 2007, et le premier des plusieurs dizaines de 30 sanctions onusiennes, je parle bien des 30 sanctions onusiennes, donc de la communauté internationale, frappe la République islamique de manière croissante depuis janvier 2007. Donc là, effectivement, vous avez raison, on a l'expression d'une inquiétude supplémentaire et il semble que les Américains et les Israéliens aient disposé de sources très très claires indiquant que là, on se trouve à quelques semaines, mais sans doute même plus quelques mois, de l'obtention potentielle d'une bombe par l'Iran.
Le président des États-Unis avait exhorté, on l'a entendu, Israël à ne pas faire ces frappes puisqu'il y a des négociations qui devaient démarrer dimanche. Est-ce que c'est un revers pour Donald Trump ?
Alors, je n'en suis pas sûr. D'abord parce que Trump est extrêmement imprévisible, notamment sur sa rhétorique diplomatique. Mais surtout, je pense que Trump a pour prisme fondamental au Moyen-Orient, contrairement à ce qu'on croit, pas du tout Israël, mais l'Arabie Saoudite. Et l'Iran a déjà prévenu à plusieurs reprises que s'il y avait une intervention massive. Alors, est-ce que l'Iran va considérer cette intervention israélienne comme massive ? Je ne le crois pas. S'il y avait une intervention massive, les Iraniens ont déjà dit, averti à maintes reprises, que l'ensemble des alliés des États-Unis dans la région seraient touchés. À commencer donc évidemment par l'Arabie Saoudite, dont je ne rappellerai pas à vos auditeurs parce qu'ils le savent, et on l'a encore vu il y a quelques semaines, que c'est l'État qui de très loin achète et investit le plus aux États-Unis, notamment en matériel militaire, mais depuis des décennies. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle Trump n'a pas parlé d'intervention massive, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, me semble-t-il, ces dernières heures, il s'est empressé de dire qu'il n'y était pour rien, en réalité. Sauf qu'on sait parfaitement que sur une initiative d'importance stratégique, les Israéliens en réfèrent aux Américains. Et sans le feu vert américain, je pense que ce type d'opération n'aurait pas été possible.
En quelques mots, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, quel est le risque d'escalade dans cette région où tout semble toujours explosif ?
Oui, je vais peut-être vous surprendre, je le dis en un mot, je crois à un conflit, d'ailleurs vous le disiez au début de l'entretien, au fond assez localisé, israélo-iranien. Pourquoi ? Parce que les autres pays de la région, de toute façon, et notamment les pays arabes du Golfe, n'ont pas les moyens militaires de s'opposer à l'Iran. J'ai presque envie de vous dire, par une petite boutade, qu'ils laissent Israël faire le sale boulot.
Frédéric Ancel, spécialiste de l'Iran, merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, chez Odile Jacob. Merci également à Amélie Stadelman qui a rendu possible cet entretien. La météo à suivre.
Ce vendredi, jackpot record Euromillion de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer. 24h sur 24, 7 jours sur 7, les bénévoles de la SNSM veillent sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons qu'ils accomplissent leur mission. Depuis 200 ans, et pour longtemps, donner à terre, c'est sauver en mer. Faites un don sur snsm.org.
C'est les ventes privées chez Optical Center. Bénéficiez de moins 30 à moins 50% sur les montures et verres des plus grandes marques, sur les dernières collections de solaire et même sur les appareils auditifs. Jusqu'à moins 50% chez Optical Center, c'est pendant les ventes privées jusqu'au 24 juin. Dispositifs médicaux, non cumulables avec d'autres offres en cours, conditions en magasin.
Ah ouais, enfin une place.
Ah ça, à mon avis, c'est un peu petit pour toi, ça. Tu sais, là, c'est, le créneau, c'est tout un art. Alors peut-être que moi, à la rigueur...
Papa,
parce que
je suis garé.
Tu es garé.
Eh ouais.
T'es bien le fils de ton père, toi.
Découvrez toute l'agilité de la Toyota Aygo Cross. Disponible à partir de 119€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Ah, c'est bien beau de se garer, mais se dégarer...
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990€, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour.
Bonjour Marion, bonjour Ali. Une nouvelle vigilance orange pour 17 départements.
Et oui, sont concernés Marion, les 5 départements normands à partir de 16h, plus la Mayenne et la Sarthe, et 8 départements du Sud-Ouest, donc l'Aquitaine, et donc les 5 départements de l'Aquitaine et les Hautes-Pyrénées, ainsi que le Gers et la Haute-Garonne à partir de 18h. En fait, on a une goutte froide sur l'Irlande qui descend beaucoup plus sur le Sud et qui crée ce conflit de masse d'air. Et attention, les orages vont être violents, on attend même des rafales jusqu'à 100 km/h sous les orages, de la grêle, prudence. Donc, et sur l'Est et la Méditerranée, ça sera toujours ensoleillé avec quelques grisailles sur le Languedoc. Et on surveillera les orages dans la nuit qui vont gagner les Hauts-de-France et demain toute la façade Est.
Et il fait plus doux dans le Nord-Est ?
Oui, car la chaleur a gagné aussi les régions à l'Est. Actuellement, il fait 17 à Strasbourg, encore 11 en Normandie. Vous vous réveillez à 22 à Paris et cet après-midi, ce sera le plus chaud de la semaine avec 33 dans la capitale, 31 à Lille, 35 à Clermont-Ferrand, mais 22 à Brest.
France Inter, 6h31.
Le journal Alexis Morel, bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Envoyer la garde nationale à Los Angeles était illégal. La justice américaine annule la décision de Trump, joie des démocrates. Mais les arrestations de migrants se poursuivent. Reportage dans une petite ville californienne. L'actualité de la nuit, c'est donc cette offensive israélienne massive en Iran. Dizaines de frappes contre le programme nucléaire et de hauts responsables militaires. On va faire un nouveau point. À suivre aussi en France, la libération de Christian Théin, le leader indépendant. Indépendantiste néo-calédonien. Et le projet de loi simplification de retour à l'Assemblée, les macronistes pas très motivés.
France Inter. C'est une première victoire pour les démocrates californiens face à Donald Trump.
La justice fédérale américaine estime que la mobilisation de la garde nationale à Los Angeles par le président était illégale et qu'elle doit passer immédiatement sous le contrôle du gouverneur de l'État. C'est lui, Gavin Newsom, bête noire de Trump, qui avait saisi les juges. Ce matin, la Maison-Blanche dénonce une ingérence extraordinaire. Dans la mégalopole californienne, les manifestations contre la politique migratoire se sont calmées. Mais pendant ce temps, les arrestations de migrants illégaux se poursuivent. Une chasse aux clandestins jusque dans les fermes. C'est le reportage à Oxnard, en Californie, de notre envoyé spécial Benjamin Ely.
À Oxnard, il y a une association qui vient en aide aux migrants nombreux à travailler dans les champs.
We are VC Defensa.
Lenny, porte-parole de cette organisation, VC Defensa. Lenny revient sur cette journée. Mardi dernier, la police de l'immigration rôdait autour de plusieurs fermes. Beaucoup de personnes ont été emmenées. Les agents étaient très hostiles envers nous. L'une de nos volontaires a eu un pistolet braqué sur le visage.
Elle va me montrer ces vidéos qu'elle a tournées. Ils sont en train de sortir quelqu'un de sa voiture. C'est un ouvrier agricole. Les volontaires sont en train de leur crier « Ne dites rien, ne signez rien ».
Hola, Rosie. Rosie, une jeune Mexicaine de 19 ans, ne fait pas ça souvent ces derniers temps. Déverrouiller sa porte, celle d'un appartement délabré aux rideaux tirés en banlieue d'Oxnard. Séparée de sa mère ouvrière agricole depuis une quinzaine d'années, en situation irrégulière, elle a été arrêtée en se rendant d'elle-même au bureau de l'immigration au mois de mai. Elle a depuis rejoint un centre de détention en Arizona. Et pendant ce temps, Rosie vit cloîtrée. J'ai peur, je pourrais être arrêtée dans la rue, je ne sors plus, je reste à la maison. Ma mère, elle, n'a commis aucune faute, tiens à dire Rosie. Elle travaille, elle fait tout ce qu'elle peut pour ses enfants. Elle n'a rien fait de mal. Mais je garde espoir. Et je dis à ma mère qu'on est là, nous l'attendons. Nous partons. Elle ferme la porte à double tour.
Le reportage de Benjamin Illy en Californie pour Inter. Hier soir encore, Donald Trump disait croire à la solution diplomatique, espérait éviter un embrasement. Israël ne l'a donc pas écouté et frappe l'Iran depuis le milieu de la nuit, semble-t-il massivement, des dizaines de cibles parmi les installations du programme nucléaire iranien, dont le site d'enrichissement de Natanz. Le chef des gardiens de la Révolution ainsi que le chef d'état-major de l'armée ont aussi été tués. Première frappe, pas les dernières, selon le premier ministre israélien qui prévient. Cette opération durera autant de jours que nécessaire. À Téhéran, la télévision d'État parle aussi de plusieurs morts dans des immeubles résidentiels. Le guide suprême de la République islamique menace l'État hébreu d'un sort amer et douloureux. À Washington, on assure ne pas être impliqué dans cette offensive israélienne qui intervient en pleine négociation sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Autre conséquence, les cours du pétrole, ils bondissent de plus de 12%. Nous serons en direct de Jérusalem dans le journal de 7h. Tandis qu'à Gaza, c'est le blackout total sur les communications de depuis hier, l'intégralité de l'enclave est coupée du monde. Les autorités palestiniennes accusent Israël d'avoir détruit la dernière ligne de fibre optique encore en service. Plus de nouvelles des Gazaouis, de quoi inquiéter d'autant plus leurs proches en Cisjordanie. Témoignage recueilli à Ramallah par Alice Moreno.
Originaire de Gaza, Salem tente de joindre sa sœur de 17 ans pour la énième fois. Et une fois encore, il tombe sur cette boîte vocale automatique. La ligne est coupée depuis mardi.
Voilà, je viens d'essayer de l'appeler, ça ne marche pas car tous les réseaux sont coupés à Gaza. C'est difficile, par Dieu, c'est vraiment dur, c'est indescriptible, c'est si dur.
Ses parents, ses frères, ses sœurs sont restés à Gaza. Le trentenaire est rongé par l'angoisse.
C'est un génocide, bien sûr que c'est un génocide. Quand je sais que les gens meurent sous les décombres, sont bombardés dans leur sommeil. Et parfois, je ne peux pas les joindre pendant un mois.
Bilal, lui, est avocat à Ramallah et il est aussi très inquiet.
J'ai des collègues là-bas dans une organisation de défense des droits de l'homme. Malheureusement, avec les coupures de réseau, nous sommes souvent empêchés de communiquer. Il semble que les images qui parvenaient de Gaza dérangeaient l'occupant. Ils ont donc décidé de couper court à la diffusion de ces images et de ces informations.
Les Palestiniens de Cisjordanie redoutent le pire et attendent désespérément un signe de vie en provenance de Gaza. À Ramallah, Alice Moreno pour France Inter.
Elle est de retour d'Israël, d'où elle a été expulsée hier. L'eurodéputée LFI Rima Hassan, l'une des passagères du bateau pour Gaza, acclamée dans la soirée par ses soutiens réunis place de la République à Paris, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon notamment. Et elle prévient les autorités israéliennes. Il y aura, je cite, autant de bateaux que nécessaire pour briser le blocus de Gaza. Le bilan monte à 265 morts en Inde après le crash de l'avion d'Air India hier matin au décollage sur un quartier résidentiel d'Ahmedabad dans l'ouest du pays. On a appris qu'un passager a miraculeusement survécu. Il s'agit d'un Britannique d'origine indienne. Au sol, on compte au moins une vingtaine de victimes dans l'immeuble sur lequel le Boeing 787 s'est écrasé.
Inter, 6h37, il est sorti dans la soirée de la prison de Mulhouse.
Christian Théin, figure des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, est libre. Décision de la cour d'appel de Paris hier après-midi qui concerne aussi quatre autres militants kanak, tous emprisonnés en métropole depuis un an et les émeutes mortes en Nouvelle-Calédonie. Et Delphine Evenou, au vu du dossier d'instruction que vous avez consulté, leur participation aux violences l'année dernière n'est pas prouvée par l'enquête.
Depuis un an, le dossier s'est épaissi de milliers de pages de procédures, de centaines d'écoutes téléphoniques, de dizaines d'heures d'interrogatoires, d'auditions de nombreux témoins. L'enquête a établi l'organisation de la CCAT, l'identité de ses membres actifs et la stratégie. Mais le dossier, passé des mains des juges de Nouméa à ceux de Paris en janvier, montre aussi, par des surveillances, des témoignages, des analyses des réseaux sociaux, qu'il y a eu de la part de militants mis en examen des contrôles pour éviter alcool et armes sur les barrages et des appels au calme. Le parquet note également qu'il n'y a pas d'éléments incriminants dans l'analyse des supports informatiques utilisés par Christian Théin. Le leader kanak, qui est venu préciser par ailleurs lors de son dernier interrogatoire fin mai, la phase 3 de la stratégie de la CCAT décrite dans la synthèse des enquêteurs en juin 2024, il s'agissait d'une crise institutionnel, la démission des élus pour bloquer l'économie, pas d'une confrontation. Les avocats des cinq militants kanaks ont tous dénoncé hier à la barre le manque d'éléments probants contre leurs clients.
Lui vient de passer sa première nuit en détention provisoire dans le quartier pour mineurs d'une prison. Le collégien de 14 ans qui a mortellement poignardé une surveillante en Haute-Marne a été mis en examen dans la soirée pour meurtre sur personne chargée d'une mission de service public. Les proches de la victime, Mélanie, organisent ce soir une marche blanche à Nogent.
C'est l'un des très rares textes portés par le gouvernement malgré l'absence de majorité à l'Assemblée.
Le projet de loi simplification déjà adopté au Sénat. Pour ses partisans, il s'agit de lever les freins à l'activité économique. Ses détracteurs y voient plutôt un détricotage des normes environnementales. Il est donc examiné par petits bouts à l'Assemblée qui a déjà voté dans ce cadre la fin des ZFE. Le voilà donc de retour aujourd'hui dans un hémicycle probablement très clairsemé, notamment du côté des macronistes, Laurence Perron.
Cette loi est manifestement devenue une épreuve même pour ceux qui président les débats.
Pour 57.
Là, on est en clôture de la dernière séance, le 28 mai dernier, le macroniste Roland Lescure.
Contre 52, on a enfin adopté quelque chose ce soir, c'est l'article 17.
Avec ses 30 articles, traitant de domaines aussi divers que l'implantation des antennes relais, la suppression des ZFE, l'autorisation des data centers ou les relations avec l'administration fiscale, même les députés les plus zélés abdiquent. La gauche dénonce à chaque prise de parole un texte fourre-tout et mal ficelé. L'écologiste Benjamin Lucas lundi.
On fait la loi pour l'intérêt général et pour répondre à des problématiques. Pas pour caser ses obsessions. Pas pour dire, regardez, je suis comme Monsieur Trump. Moi aussi, je vais tout casser. Ce n'est pas sérieux. Monsieur le ministre, le gouvernement serait bien inspiré de retirer ce texte purement et simplement et ensuite de faire des textes qui correspondent au sujet que nous évoquons ici.
Dans le camp macroniste, ils sont une poignée à tenir la tranchée. Beaucoup ont déserté les bancs, gênés aussi d'avoir à voter systématiquement avec la droite et le RN. Le rapporteur du texte, l'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, ne cache plus ses états d'âme. On fera comme on peut avec les présents, nous confiait-il hier.
Ils ont dû réviser Rabelais, Colette ou La Bruyère, tous au programme cette année. Les 535 000 élèves de première passent ce matin leur bac français. 4 heures de dissertation ou de commentaires de texte au choix avant l'oral dans quelques jours. Et puis cette alerte pollution lancée dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Trop de particules fines dans l'air. C'est toujours lié aux fumées des méga-feux canadiens, mais aussi à l'arrivée de sable venu du Sahara.
C'était le journal d'Alexis Morel. Tout à l'heure à 8h20, une question dans le grand entretien. Réseaux sociaux et écrans, nos ados sont-ils en danger? Psychiatre, psychothérapeute, addictologue pour y répondre. Question témoignage au standard 01 45 24 7000 à partir de 7h et sur l'application Radio France.
Oh là, j'en peux plus de ces bouchons là.
Ah ouais, c'est marrant ça, moi je trouve ça très bien moi ça.
Comment ça tu trouves ça très bien?
Ben, pense un peu aux autres fistons qui aient le temps d'admirer ma nouvelle Aygo Cross avec son toit ouvrant et ses jantes 18 pouces. Eh oui.
Venez découvrir la Toyota Aygo Cross, disponible à partir de 119€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end.
Oh, j'avance, oh là là.
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990€, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
6h42.
France Inter. Le 6-9.
Et l'équipe du 6-9 nous a rejoint. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Dans Planète Verte, Sandy Dauphin ce matin.
Le clap de fin du sommet des Nations Unies sur les océans, c'est ce soir. Qu'est-ce qu'on peut déjà en retenir?
Dans Net Plus Ultra, Julien Baldacchino.
On va voir pourquoi la question du contrôle de l'âge des enfants sur Internet, elle est presque plus ancienne qu'Internet lui-même.
Dans le prétoire avec vous, Jean-Philippe Degnaud.
La première fois que j'ai vu un juge, il m'a dit qu'elle avait certainement fugué 23 ans après la disparition de sa fille. Le père d'Estelle Mouzin demande la condamnation de l'État pour faute lourde et déni de justice.
Et Thomas Croisière.
Vous savez quoi, Ali?
Non.
Plus c'est long, plus c'est bon.
Ça c'est sûr. Il est 6h42, on commence avec la politique et avec vous Quentin Laurent.
Et Emmanuel Macron était cette semaine à Nice au sommet dont on va parler également avec Sandy pour inciter à protéger les océans. Mais un autre phénomène climato-politique guette selon vous Quentin le président de la République.
Oui, c'est la fonte du continent macroniste. Cet espace central créé en 2017 rassemblant des personnalités venues de tous bords avec le serment d'œuvrer pour une politique débarrassée des vieux clivages. Mais voilà, l'édifice se craquelle désormais ouvertement par ses deux extrémités. Ça a déjà bien commencé côté droit. Les héritiers du président les mieux placés pour reprendre le leadership semble avoir déjà renoncé à incarner l'équilibre droite-gauche en insistant sérieusement sur le coup de barre à tribord. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, comme du chef du parti Renaissance Gabriel Attal, lui pourtant issu du socialisme. Tous les deux ont acté que c'est au centre-droit que se jouera leur salut en 2027. Coup de canif mortel dans la promesse originelle de l'hôte de l'Élysée.
Et vous diriez que ça s'affaisse aussi côté gauche, Quentin ?
Précisément, il s'y amorce aussi un mouvement de retour au bercail. L'ancien socialiste et actuel ministre François Rebsamen, qui avait soutenu Emmanuel Macron dès 2017, a fait savoir ce mercredi qu'il rejoignait l'initiative de son ancien camarade de Solferino, Bernard Cazeneuve. Ce dernier veut profiter du départ annoncé d'Emmanuel Macron pour redonner des couleurs à une vraie candidature de centre-gauche pour la présidentielle. Et il espère pour ça faire revenir les déçus de l'ère Macron, cette fameuse aile gauche du macronisme, qui n'a eu qu'une influence extrêmement modeste depuis 2017, parce que après son élection, le chef de l'État a très vite donné beaucoup plus de gages à son aile droite dans les politiques mises en place.
Et ce mouvement de retour, il pourrait s'amplifier ?
François Rebsamen a jeté un premier pont. Mais pour que le mouvement prenne, il va falloir que cette promesse d'une incarnation de gauche non mélenchoniste prenne de l'épaisseur. Bernard Cazeneuve est sur les rangs, l'ancien président François Hollande n'a renoncé à rien, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann-Lissonge et Olivier Faure, tout juste réélu à la tête du PS, n'a pas complètement dit non. Il faudra alors tendre l'oreille. Que feront les figures de l'aile sociale de la Macronie, les Clément Beaune, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, continuer à jouer les faire-valoir auprès d'un centre droit qui les méprise, ou bien revenir à leurs anciennes amours teintées de rose. Survivre comme un mirage ou finir englouti, le nouveau monde politique que promettait Emmanuel Macron n'est pas assuré d'avoir ses plus beaux jours devant lui.
La politique, merci Quentin Laurent du Parisien aujourd'hui en France. Il est 7h moins le quart, Planète Verte, la chronique environnement de France Inter avec vous Sandy Dauphin.
En direct de Nice où vous suiviez ce sommet des Nations Unies sur l'océan qui s'achève ce soir. Sandy, est-ce qu'on peut parler d'un succès ?
En tout cas, le sommet a donné un coup d'accélérateur au traité international sur la haute mer. Depuis son adoption il y a 2 ans, c'était un peu la pétole, comme on dit sur un voilier quand il n'y a pas de vent. Il faut 60 ratifications pour qu'il entre en vigueur. Et il n'y en avait qu'une 21 il y a encore quelques jours.
Et désormais,
la diplomatie française a sorti les rames pour arriver ici à plus de 50 ratifications. Alors ce n'est qu'une question de semaine pour dépasser la fameuse barre des 60, dit la France. La France optimiste pour une entrée en vigueur du texte en 2026 et une première COP dédiée exclusivement aux océans la même année.
Et alors pourquoi ce traité sur la haute mer est-il si important, Sandy ?
Parce que la haute mer, c'est les 2/3 de la surface des océans, une immensité qui appartient à tous les pays, même ceux qui n'ont pas de façade maritime. Et il faut que les copropriétaires se mettent d'accord sur les règles de bonne gestion des parties communes. Pour la première fois, il y aurait par exemple des aires marines protégées en dehors des eaux territoriales.
Et donc à part ce traité sur la haute mer, que retenir du sommet de Nice ?
Eh bien, ils sont désormais 37 pays, 5 de plus, à demander un moratoire de précaution sur l'exploitation minière des fonds marins. Les abysses ne sont pas à vendre, dit Emmanuel Macron, alors que Donald Trump veut lancer dès que possible la chasse aux trésors controversés au fond de l'océan. Et puis à Nice, 96 pays ont signé un nouvel appel ambitieux contre la pollution plastique. La collecte et le recyclage des déchets ne suffisent pas, disent-ils. Il faut réduire la production du plastique.
Mais parce qu'il y a un mais.
Pour l'instant, ce sont de belles promesses et certains pays bloquent. Le moment de vérité, ce sera lors des négociations officielles sur ces sujets dans d'autres enceintes internationales. 2 dates clés. En juillet, en Jamaïque, il y a une réunion cruciale de l'Autorité internationale des fonds marins pour adopter un code minier. Et puis en août, à Genève, les discussions finales pour aboutir à un traité mondial contre la pollution plastique. On verra alors le rapport de force entre les pays ambitieux et les moins disants. En attendant, ce sommet des Nations Unies a réussi à réunir 64 chefs d'État au chevet de l'océan, plus de 100 ministres, 12 000 délégués venus du monde entier. Une preuve de la résistance d'un multilatéralisme bleu, malgré le contexte international et malgré l'absence des États-Unis à Nice, première puissance maritime mondiale.
Et dans votre viseur pour les jours à venir dans l'actualité environnement, Sandy, qu'est-ce que vous avez repéré ?
Eh bien, on reste dans l'océan, longtemps considéré comme une poubelle. Dimanche, une mission du CNRS part dans l'Atlantique Nord-Est pour cartographier la zone où 200 000 fûts de déchets radioactifs ont été immergés entre les années 1950 et 90.
Merci Sandy Dauphin depuis Nice, grâce aux moyens techniques de Jérémy Thuil. Il est 6h48, net plus ultra, Julien Baldacchino. Depuis quelques semaines, c'est la question qui semble sans réponse et depuis des semaines, on se demande comment vérifier l'âge des internautes.
Oui, une question doublement au cœur des débats, à la fois sur la question de l'accès aux réseaux sociaux, en théorie réservé aux plus de 13 ans et pour qui cette limite d'âge pourrait être relevée, et sur la question de l'accès aux sites pornographiques qui sont réservés eux aux plus de 18 ans. Une question qui occupe particulièrement les esprits ces derniers jours, en témoigne ce son d'actualité.
La pornographie, les adolescents en parlent facilement, même les plus jeunes. C'est devenu banal. Sur Internet, à la télévision, les images de sexe sont de plus en plus accessibles aux adolescents.
Bah, il suffit de demander à quelqu'un de faire un enregistrement, par exemple, sur Canal+, et puis après, il fait des copies, et puis on se les fait tourner.
Je vois même pas.
Cet extrait de reportage, il date de 2002. La question, elle est aussi ancienne qu'Internet lui-même et elle n'est toujours pas tranchée.
Aussi vieille qu'Internet, vraiment.
Mais même plus que ça. J'aurais pu vous passer un extrait de reportage qui posait la question du contrôle de l'accès des mineurs au Minitel Rose dans les années 80. Pour les plus jeunes, le Minitel Rose, c'était comme quand vous flirtez avec ChatGPT, sauf qu'à l'autre bout du fil, c'était Patrick, étudiant en école de commerce, qui arrondissait ses fins de mois. La première loi américaine sur la protection des mineurs des contenus pour adultes date de 1996. C'est le Communications Decency Act. Et déjà à l'époque, le texte ne propose pas de solutions techniques adaptées. Alors je vais vous donner des tuyaux car des solutions, il y en a.
Alors Julien, on parle beaucoup de l'identification avec la carte de crédit.
Ça fait effectivement partie des solutions proposées. Mais figurez-vous qu'en 2019, le Royaume-Uni, très créatif, a proposé une solution nommée le Porn Pass, une carte physique à aller acheter chez son buraliste ou en supermarché, avec un code à rentrer dans une appli pour confirmer qu'on a bien plus de 18 ans. Un projet qui a été reporté plusieurs fois et au final jamais adapté. Autre solution originale, ça remonte à bien plus loin, dans les années 80, un jeu érotique, un jeu vidéo qui avait créé un questionnaire auquel un enfant ne pouvait théoriquement pas connaître les réponses. Avec par exemple des questions sur le personnage interprété par David Carradine dans la série Kung Fu dans les années 70. Autant dire que ça mériterait un peu d'actualisation. Aujourd'hui, la solution la plus adaptée, c'est celle du tiers de confiance, un service qui permet au site auquel vous voulez accéder de vérifier que vous êtes bien majeur sans révéler votre identité. Cette solution, elle existe, mais alors pourquoi tout ça n'est pas mis en place? Eh bien, pensez aux marchands de journaux chez qui vous alliez discrètement faire passer un magazine osé entre un journal de Mickey et un Science et Vie. Vous croyez vraiment qu'ils ne vous voyaient pas? Ils laissaient faire parce qu'ils vendaient son journal. Eh bien là, c'est exactement pareil. Tant que ça fait du clic, ça continue à marcher.
Net plus ultra.
Net plus ultra avec la compagnie des déboucheurs. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. La compagnie des déboucheurs, c'est plus votre problème, c'est notre métier.
Merci Julien Baldacchino. Une chronique à réécouter sur l'appli Radio France. Il est 6h51 et dans le prétoire Jean-Philippe Degnaud au tribunal judiciaire de Paris, devant lequel la famille d'Estelle Mouzin, l'une des victimes de Michel Fourniret, poursuit l'État pour faute lourde et déni de justice.
C'est une affaire bien connue, hélas, aborde le président de la première chambre civile, avant de dérouler l'impressionnante chronologie des faits depuis la disparition d'Estelle le 9 janvier 2003 à Guermantes, jusqu'à la condamnation de Monique Olivier, épouse et complice de Michel Fourniret, le 19 décembre 2023 à Nanterre. 20 ans de procédure, 20 ans de vie suspendue, 20 ans de combat pour que la justice remplisse sa mission, développe maître Didier Seban. Alors, ce dossier nous met horriblement en colère, plaide l'avocat de la famille Mouzin, dans une longue plaidoirie où il développe par cœur tous les écueils, les ratés, les failles de cette enquête dirigée au tribunal de Meaux où 10 juges d'instruction vont se succéder. Aujourd'hui, il faudrait une année à temps plein pour que le dossier soit lu en intégralité, souligne Maître Seban. Autant dire que la plupart ne l'ont même pas ouvert. Et pourtant, il n'était pas besoin d'être policier ou magistrat chevronné pour le régler rapidement, estime l'avocat. Parce qu'il y avait eu Mégane, une autre fillette de Guermantes qui avait échappé de peu eux un enlèvement 3 semaines avant Estelle. Son témoignage a été négligé. Parce qu'on a interrogé les habitants de Guermantes, oui, mais pas tous. Parce qu'on a fouillé les puits aux alentours, oui, mais pas tous. Et parce qu'il y a eu cette arrestation de Fourniret, 6 mois plus tard. Un coup de tonnerre, insiste Maître Seban. Les policiers belges préviennent immédiatement leurs homologues français que c'est un tueur en série. Ils nous lancent une alerte maximum sur les enlèvements d'enfants. Et que se passe-t-il ? Rien. Pire encore, la police judiciaire de Versailles, qui est en charge de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, considère à 99% que Fourniret n'a rien à voir avec cette affaire, critique l'avocat. Ce n'est qu'en 2019, grâce à l'acharnement de la juge Kéris, que celui qu'on appelle fallacieusement l'ogre des Ardennes sera mis en examen. Mais la santé mentale de Fourniret se dégrade. Il meurt 18 mois plus tard, emportant avec lui le secret du lieu où il s'est débarrassé du corps d'Estelle. Voilà comment on en est arrivé à ce désastre judiciaire, résume l'avocat. La piste Fourniret était évidente, éclatante, lumineuse, mais elle n'a pas été suivie. C'est une faute lourde du service public de la justice. Le père d'Estelle se lève à son tour pour évoquer face au tribunal cette seule image qui résume toutes les vicissitudes de ce dossier, dit-il. Ma première rencontre avec un juge, quand il m'a dit que c'était certainement une fugue, Estelle avait 9 ans, il faisait moins 10 degrés ce jour-là, se souvient Éric Mouzin, j'ai compris que j'étais entré dans un univers compliqué. Alors aujourd'hui, si on trouve ça normal, alors tout est normal et je n'ai rien à faire ici. La famille Mouzin réclame 350 000 euros de réparation financière. L'agence judiciaire de l'État, qui admet des manquements de la justice, réplique que ce montant doit être nettement revu à la baisse. L'avocate évoque la jurisprudence, les 70 000 euros octroyés aux parents du petit Grégory ou les 25 000 euros versés à la mère de l'une des victimes de l'adjudant Chanal. Le tribunal rendra sa décision le 3 septembre.
Jean-Philippe Degnaud du service police-justice de France Inter. À suivre, la météo et le radio. Okay.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 euros hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre particulière du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes tous les ans sans aucun reste à charge. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes, que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, qu'on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes chaque année sans aucun reste à charge chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical, conditions en magasin, valable jusqu'au 31 décembre.
France Inter, partenaire du festival Mot pour Mot, organisé par Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama. Une 5e édition marrainée par Lola Lafont autour d'une quarantaine d'auteurs et autrices. Neige Sino, Vanessa Springora, Camille Laurence, Olivier Norek, Christine Angot. Rencontres, lectures, signatures et autres festivités pour mettre la littérature et la musique à l'honneur. Mot pour Mot, les 21 et 22 juin à La Villette. Un événement Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama avec France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Marie-Pierre Planchon, l'ambiance est lourde dès ce matin.
Ah oui, Marion, la chaleur a gagné pratiquement tout le pays, excepté toujours près de la Manche. En Normandie, vous avez actuellement 11 à Saint-Clément-Rancoudray, mais aussi en Haute-Loire, mais déjà 22 à Nice et dans les Landes à Biscarrosse. Côté ciel, au nord d'une ligne qui relierait le bassin d'Arcachon à la Lorraine, on a pas mal de nuages qui commencent à déborder, comme sur la Bretagne et les Charentes, avec déjà des orages, mais aussi sur les Ardennes. Vous avez pu voir le soleil se lever, excepté vers les côtes du Languedoc. Que les côtes varoises vers Bonifacio à cause des grisailles marines.
Attention aux orages violents cet après-midi.
Oui, Marion, la goutte froide sur l'Irlande en fait descend beaucoup plus dans le sud. Par conséquent, sur de l'air chaud, ça craque. Météo France vient de placer donc 17 départements en vigilance orange orage qui concernent le nord-ouest à partir de 16h, 5 départements normands plus la Mayenne et la Sarthe et 2 départements de la Somme et du Pas-de-Calais. Et on a aussi dans le sud-ouest 8 départements en vigilance orange à partir de 18h, les 5 de l'Aquitaine plus les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne, mais tout va évoluer à surveiller car ces orages sont vraiment violents, de la grêle, des rafales de vent 100 km/h. Les Hauts-de-France seront aussi à surveiller dans la nuit et demain les régions centrales et la façade est. Et ailleurs, eh bien, vous aurez un temps très chaud et estival entre les 22 à Guilvinec et les 38 à Auxerre.
Merci Marie-Pierre, jingle humour.
France Inter.
J'ai le droit de le dire ?
Vas-y, dis-le.
Tout le monde est OK pour le...
Radis
OK !
Et surtout Jean-Pierre, qui m'a réclamé pour le demi-siècle de sa femme son titre préféré. Alors pour
merci
être honnête,
Jean-Pierre.
Bah oui, mais les 50 ans de Sylvie étaient en avril, mais je suis dépassé par le succès du 6-9 et du Radis OK. Je remercie d'ailleurs les auditeurs de leur fidélité et de leur proposition. Alors, c'est pour toi et ton 602e moisiversaire, Sylvie.
Et désolé.
Welcome to the Hotel California. Such a lovely place,
such a lovely place,
such a lovely face.
Ce slow des Eagles, auquel je dois un retentissant râteau en cinquième avec Barbara Lefebvre,
oh,
fait partie
hein.
des 45 tours les plus longs de l'histoire à avoir été numéro 1. Et je peux vous dire que quand t'as pris un râteau, c'est long, 4 minutes 57. Il est cependant battu par les Beatles, qui en 68 sortirent eux aussi un slow en single, mais de 7 minutes 11. Si je vous dis na 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 na,
hey, Jude.
Mais oui, vous me répondez.
Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Qui fut reprise en français dans une version plus courte par les Rolling Bidochons.
On est obligé.
C'est vrai?
Ben oui.
Qui sait ce gros tas?
On voulait se faire.
Une meuf comme ça. On la garde pour soi.
C'est un outrage.
Oui, mais c'est une chanson du 20e siècle. Et même si j'ai fait allemand première langue, je sens bien que ce n'est pas une adaptation littérale des paroles de Polo. Mais le champion toute catégorie de la durée, ce n'est pas un macaron, mais un américain. Don McLean et son...
We were singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And the old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die.